Le Dieu inconnu. Personne ne peut nier que le monde existe. Mais d'où est-il venu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1.1. La question à poser ensuite pourrait être, quel Dieu, un seul Dieu, créa-t-il le monde ou bien le monde fut-il créé par une multitude d'êtres divins? En Actes 17 se trouve un passage merveilleux traitant du Dieu qui créa l'univers. Paul s'adressait à un groupe de philosophes païens à Athènes, l'une des villes les plus idolâtres dans l'histoire du monde. C'était une ville pleine d'idoles, Actes 17.16. Les hommes d'Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles, Actes 17.21. Les citoyens d'Athènes s'efforçaient de rester suffisamment bien informés des actualités pour pouvoir en parler avec quiconque. Un Romain de l'Antiquité dit qu'il était plus facile de trouver un dieu à Athènes que de trouver un homme. En parcourant les rues de cette ville historique, il serait difficile de ne pas remarquer les diverses idoles érigées en honneur des différents dieux. Il y avait à Athènes un dieu pour chaque chose. Ces citoyens, pourtant, se rendaient compte qu'ils auraient pu oublier un dieu. Ils érigèrent donc un autel en mémoire de celui qu'ils auraient oublié. En traversant la ville, Paul vit l'autel érigé en mémoire du Dieu inconnu. C'est à ce Dieu oublié que Paul voulait leur exposer. Le vrai Dieu vivant ne demeure ni sur un piédestal ni dans un temple fait de mains d'hommes. Dieu créa toutes choses et il vit partout. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira, Psaume 139.7 au 10, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu créa le monde et les hommes tels qu'il les a faits? Il le fit afin qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Actes 17.27, 28. Nous sommes là pour servir le seul vrai Dieu. Dieu se met en colère quand nous adorons d'autres dieux, car ils n'ont rien fait pour nous. Ésaïe déclare que les idoles sont sans force, car elles sont faites par l'homme au lieu d'avoir fait les hommes, Ésaïe 44.12 au 17, 46.3 au 7. Même les Athéniens reconnaissaient que les hommes sont des enfants de Dieu, Actes 17.28. Ceci étant, que serions-nous si nous adorions un Dieu fait d'or, de pierre ou des bois? En diminuant Dieu, nous nous diminuons nous-mêmes. Nous devons élever Dieu dans nos vies à la place qui lui convient. Il est l'être suprême. Il n'y a pas un autre Dieu, et il n'y a pas d'excuse pour ceux qui ne croient pas en lui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, Romains 1.20. Mais si je crois réellement en Dieu, alors je dois agir en conséquence. Comment une personne peut-elle croire réellement que Dieu existe et qu'il créa toutes choses, et refuser de chercher à lui plaire? Il est étonnant de considérer la peine que nous nous donnons pour plaire au soi-disant Dieu de ce monde tandis que nous refusons de faire quoi que ce soit pour le seul vrai Dieu. Qui est plus digne que Dieu de recevoir notre amour et dévouement? Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, Ecclésias 12.15, 16. Ainsi donc, je dois vivre de telle manière à être agréable à Dieu afin de me tenir victorieux devant lui dans l'éternité. Dieu a non seulement créé l'homme, mais il continue de le soutenir. Et il nous soutient non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel aussi. Dieu reconnaît que le côté spirituel de l'homme est plus important que son côté physique parce que l'homme spirituel vivra pour toujours. À cause de son amour pour l'homme, Dieu a pourvu le nécessaire pour le salut éternel de son âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3.16. Notre Dieu aimant a pourvu le salut, mais nous devons faire quelque chose afin d'obtenir ce salut. On peut pourvoir à un animal de l'eau à boire, mais pour qu'elle lui soit bénéfique, il doit en boire. Afin que j'obtienne le salut, moi aussi, je dois faire quelque chose. Je dois croire au seul Dieu et l'aimer de tout mon cœur. Je dois croire également qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin qu'il soit mon Sauveur. Je dois accepter de confesser cette foi et parler de Christ aux autres. En plus, je dois accepter de me repentir, de changer mon ancienne manière de vivre. Je dois naître de nouveau, Jean 3.3 au 5, ce qui veut dire que je dois être baptisé, immergé dans l'eau, pour la rémission de tous mes péchés. Ainsi je peux devenir enfant du seul Dieu et avoir l'espérance d'une vie avec lui pendant toute l'éternité. Pourquoi passer votre vie à servir une idole morte qui n'a rien fait pour vous et qui en plus ne pourra jamais rien faire pour vous? Pourquoi ne pas vivre pour le seul vrai Dieu vivant? Pourquoi ne pas vivre de la manière que Dieu veut que vous viviez afin d'être avec lui pour l'éternité?